franceinter.fr.
Mais d'où vient l'eau qui se trouve sur notre planète? Une belle et grande question qui trouve de nouvelles réponses aujourd'hui, et c'est à la une de la science.
Dès que l'on a compris que les comètes contenaient une énorme quantité de glace, il a paru raisonnable de penser qu'en frappant la Terre, elles ont apporté cette glace qui aurait fondu pour donner naissance aux océans.
Voilà, ça c'était la voix du célèbre astronome américain Toby Owen, interviewé en 2008. Mais aujourd'hui, des théories nouvelles arrivent, et selon une étude récente menée par des chercheurs américains et français, le bombardement massif de météorites et de comètes qu'a subi la Terre n'a pas suffi pour apporter toute l'eau présente aujourd'hui sur notre planète. Elle aurait tout simplement pu être là déjà avant. Une drôle d'histoire qui nous amène donc, Axel, au tout début de l'histoire de la Terre et qu'on décrypte avec notre invité.
Oui Mathieu, nous sommes au téléphone avec Jean-Alix Barra. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de géochimie à l'université de Brest et vous êtes co-auteur de cette publication dans la revue Science Advances. Alors, pour commencer et pour situer un petit peu, de quelle quantité d'eau est-ce que nous parlons aujourd'hui?
Alors, ça dépend. Si vous vous placez sur la Terre complète, c'est-à-dire de la surface jusqu'aux zones les plus profondes, on va parler d'une quantité d'eau qui est de l'ordre de 10 à 3 océans.
Trois océans, vous dites océan, c'est l'eau qui est à la surface, c'est ça?
Voilà. Oh. Donc pour visualiser les choses, je préfère parler en volume d'océan.
D'accord. Et voilà. Pourquoi 10 à 3, c'est très incertain comme estimation?
Ouais, mais attendez, on n'a pas été jusqu'au bout. Hein. Donc en fait, c'est très incertain, mais en fait, on sait qu'il y en a beaucoup plus que celles que l'on voit. Et c'est déjà bien.
Pourquoi est-ce que jusqu'à maintenant, on a pensé que cette eau était arrivée par les comètes et les météorites alors?
Oui, on avait de bonnes raisons pour ça. La bonne raison, c'est qu'on a compris l'histoire de la Terre et de la Lune. Mmh. Et on a compris que la Lune s'est formée il y a plus de 4,5 milliards d'années, quand il y avait notre proto-Terre qui a été impactée par une planète de la taille de Mars. Mars attaque pour de bon.
Ça veut dire qu'à ce moment-là, l'eau aurait disparu?
Voilà. Alors, on a eu une catastrophe monstrueuse et on a facilement imaginé que la quasi-totalité de l'eau terrestre avait été volatilisée et a été perdue dans l'espace.
Et elle serait donc revenue ensuite via ces comètes et météorites. D'accord.
Voilà, parce que notre histoire est assez compliquée. On a une histoire longue après cet épisode de plus de 4,5 milliards d'années. Et après donc cet épisode, on a eu la Terre a été poivrée par de la matière extraterrestre qui aurait alimenté la Terre en eau. En autres volatiles d'ailleurs.
Et vos travaux aujourd'hui viennent chambouler un peu toute cette histoire puisque vous affirmez que ces bombardements ne suffisent pas à apporter toute l'eau de la Terre. Comment est-ce que vous obtenez ce résultat?
Alors ça va être un peu compliqué de rentrer dans les détails.
On s'accroche.
Tenez-vous bien. Donc en fait, on va revenir à 4,5 milliards d'années. Uh-huh. On a un cataclysme gigantesque. On peut parler de cataclysme, hein, c'est ce qu'il y a de plus catastrophique qui puisse arriver à notre planète. Et à ce moment-là, donc l'ensemble Terre perd son eau. De la matière s'accrète à côté de la Terre pour former la Lune, toute sèche. Et puis, il se trouve que, à ce moment-là, la Terre et la Lune présentent des similarités de composition extrêmes. Mmh. Voilà. En particulier pour un élément qui est l'oxygène.
Voilà. Comment on en arrive jusqu'à l'eau, alors?
Alors, il se trouve que, après 4,5 milliards d'années, donc, on reçoit des matériaux. La Lune aussi reçoit des matériaux, mais pratiquement rien par rapport à la Terre. Et la composition de la Terre va évoluer avec cet apport de matériaux extérieurs. Et comme on connaît la composition ou certaines caractéristiques chimiques de la Lune, eh bien on va pouvoir estimer, quantifier la quantité de matière qui est arrivée sur notre planète et dont la quantité d'eau.
Et c'est là qu'on en arrive au moment où vous dites qu'il n'y en a pas assez, c'est ça?
Exactement. Donc on ne dit pas qu'il n'y a pas eu d'eau qui est arrivée tardivement, mais on dit que cette quantité d'eau, elle est très inférieure au volume d'un seul océan. D'un seul océan mondial.
Jean-Alix Barra, au moment de sa formation, donc si je vous suis bien, hein, il y avait déjà de l'eau sur Terre, en fait, c'est ça, cette proto-Terre dont vous parliez tout à l'heure, l'eau était déjà présente?
Oui. Alors, je vais rectifier un petit peu les choses. Il pouvait y en avoir, ou bien elle a pu être apportée par l'impacteur.
Ah, quand même, oui.
Voilà. Mais le plus facile à envisager, c'est qu'il y en avait avant.
Pourquoi on a si peu d'informations sur cet objet qui a percuté la Terre? Comment est-ce qu'on l'imagine et comment est-ce qu'on pourrait revenir en arrière pour comprendre ce qui s'est passé?
Alors, on pourrait revenir en arrière déjà si on avait des fragments de la Terre d'avant et de cet objet.
Oui.
Et je vous cache pas que ce serait un grand rêve, d'avoir un morceau des deux.
Est-ce qu'on peut les trouver quelque part encore? C'est vraiment possible d'en trouver?
C'est pas impossible.
Vous êtes très vague.
Oui. Parce que imaginez une catastrophe monstrueuse, deux planètes qui rentrent en collision, des débris des deux objets qui sont retrouvés après 4,5 milliards d'années, après un grand voyage dans l'espace, c'est possible.
Mais ce serait où sur Terre, alors, Jean-Alix Barra? Vous avez une adresse déjà ou pas? Parce que je sens que vous savez des choses, mais que vous ne voulez pas nous le dire.
Et je ne dirai pas tout.
Donc vous savez.
Non, je ne sais pas tout. Non, mais il y a des candidats possibles, évidemment, on a le droit de rêver. Encore faut-il le démontrer.
Ouais.
Sinon, on fait des fake news.
Mais c'est extrêmement compliqué, effectivement, puisqu'on est sur des datations très lointaines. Axel, encore une question.
Malgré tous vos mystères, est-ce que pour vous, c'est définitif? Il faut réécrire les livres de SVT et arrêter de penser que l'eau est arrivée simplement par les comètes et les astéroïdes, quand même.
N'hésitez pas. Abandonnez l'idée ancienne.
Ah, vraiment? Vous allez jusque-là avec cette publication, d'accord.
Ouais.
Mais alors, quand est-ce que ce sera reconnu, je sais pas, officiellement, le terme n'est pas tout à fait approprié, mais si on en arrive à changer les manuels scolaires, à partir de quel moment ça pourrait réellement être envisagé, alors, Jean-Alix Barra?
Vous me posez des bonnes questions. Non, en fait, c'est le temps qui va faire son œuvre.
Il va falloir que d'autres chercheurs confirment vos résultats aussi, j'imagine.
Oui, bien sûr. On n'est pas les seuls à travailler sur ce sujet, et puis il y a des collègues qui vont essayer de valider les choses.
Voilà, et ce sont des idées nouvelles qui font aussi avancer la science, mais qui demandent du temps, parce que c'est ça aussi la méthode scientifique. Merci beaucoup Jean-Alix Barra et Axel, on se retrouve bien demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, les câlins modifieraient l'ADN des neurones chez les bébés souris. Les scientifiques savaient déjà que l'ADN des cellules du cerveau se modifiait jusqu'au sevrage. Et bien, dans cette nouvelle étude, deux groupes de souriceaux ont été étudiés par les généticiens américains, l'un cajolé et l'autre délaissé par la maman souris. Pour chercher à connaître l'impact de ces câlins, ils ont ensuite échangé ces deux groupes avant leur sevrage, ce qui a eu pour effet de modifier certains gènes de leurs neurones. Les implications ne sont pas encore clairement établies, mais selon ces chercheurs, l'apparition de certaines pathologies psychiatriques comme la dépression ou la schizophrénie pourraient se jouer pendant cette période clé du sevrage, avant le sevrage. Les navigateurs vikings auraient-ils vraiment voyagé avec la légendaire Pierre de Soleil? Marins hors pair et conquérants des mers, ils auraient selon la légende parcouru des milliers de kilomètres sans compas mais guidés par de grosses pierres cristallines. Et pour confirmer cette idée, une équipe de chercheurs anglais a réalisé des tests avec plusieurs types de cristaux. Et la technique consistant à regarder le ciel à travers la pierre pour déterminer l'emplacement précis du soleil malgré les nuages. En prenant le soin de les consulter régulièrement, eh bien les chercheurs ont atteint leur destination dans quasi 100% des cas. De quoi penser donc que les vikings, malgré le brouillard et la pluie, sont allés bien au-delà de l'Islande grâce à de simples cristaux de cordierite ou de calcite. Et puis quand les araignées font du ballon, certaines araignées, en plus de tisser des toiles, utilisent également leur soie pour voler. Elles lancent leurs longs fils dans le vent pour planer parfois sur de longues distances. Eh bien l'expérience a été menée dans une soufflerie de l'Université technique de Berlin. Des chercheurs ont observé 14 grandes araignées crabes dans ces démonstrations de ballooning. Il montre que ces aventurières ne sont pas pour autant suicidaires. Elles testent d'abord la vitesse et la température du vent avec leurs deux pattes pendant plusieurs secondes avant de décider de décoller ou non. Les bonnes conditions sont donc une brise douce, chaude qui ne dépasse pas les 3 mètres par seconde. La vidéo du décollage d'araignées sont visibles sur la page Facebook de l'émission.